bien RFI, les 4 heures à Paris, 2 heures en temps universel.
Mathis Limano.
Au sommaire de cette nouvelle édition, la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué dans une frappe israélienne vendredi. Sa disparition est une onde de choc au Moyen-Orient. Le premier ministre israélien, lui, s'en est réjoui et a annoncé avoir réglé ses comptes avec le Hezbollah. À la une également, les élections législatives en Autriche, c'est ce dimanche. Et même si l'extrême droite est en tête des sondages, rien n'est joué, vous l'entendrez. Et puis ce dimanche, c'est aussi la dernière épreuve des championnats du monde de cyclisme à Zurich, en Suisse. Bienvenue. À la une de l'actualité du monde, la mort d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. Le leader du mouvement chiite depuis 32 ans a été tué dans une série de bombardements sur Beyrouth vendredi soir. Un déluge de bombes s'était abattu dans la banlieue sud de la capitale libanaise, fief du Hezbollah. Dès son retour des États-Unis et après son discours à l'ONU, Benjamin Netanyahou s'est adressé aux Israéliens dans un message victorieux. Michel Paul.
Israël se trouve à un tournant historique dans la lutte contre ses ennemis, affirme Benjamin Netanyahou dans une première déclaration après l'élimination de Hassan Nasrallah.
Nous avons réglé nos comptes avec celui qui est responsable du meurtre d'innombrables Israéliens et de nombreux ressortissants étrangers, parmi eux des centaines d'Américains et des dizaines de Français.
Le premier ministre israélien lance également une sévère mise en garde adressée directement à l'Iran.
Au régime des ayatollahs, je dis que ceux qui nous frappent, nous les frapperons. Il n'y a pas d'endroit en Iran ou au Proche-Orient où ils ne seront pas atteints par le bras d'Israël.
Pour Netanyahou, la mort de Nasrallah va permettre à Israël d'atteindre ses objectifs de guerre.
Nous gagnons. Nous sommes déterminés à frapper nos ennemis, permettre aux déplacés de rentrer chez eux et de ramener tous nos otages. Nous ne les oublions pas un instant.
Si quelqu'un vient pour te tuer, lève-toi et tue-le en premier, ajoute encore Benjamin Netanyahou. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et l'Iran qui demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, assurant que la mort de Nasrallah entraînera la destruction d'Israël. Pour Joe Biden, son assassinat est une mesure de justice pour les nombreuses victimes du Hezbollah. Le président américain qui a toutefois renouvelé son appel à un cessez-le-feu. Au Liban, ce samedi, de nouvelles frappes ont fait 33 morts et près de 200 blessés. Jour d'élection ce dimanche en Autriche. Les Autrichiens votent pour élire leurs députés et se choisir un nouveau chancelier. Le FPÖ, le parti d'extrême droite, fait la course en tête dans les sondages avec 27%. Ils sont devant les conservateurs, crédités de 25%, et les sociodémocrates à 21%. C'est donc un scrutin très indécis qui se dessine. Romain Lemaresquier.
Après sa victoire lors des élections européennes de juin dernier, le FPÖ, le Parti de la Liberté d'Autriche, et son leader, le sulfureux Herbert Kickl, pourraient bien enchaîner avec une nouvelle victoire ce dimanche à l'occasion des élections législatives, ce qui serait une première pour une formation d'extrême droite. C'est en tout cas ce que prédisent les sondages depuis plus d'un an et demi, et cette résurgence du FPÖ est en grande partie le fruit du travail d'Herbert Kickl, un dirigeant provocateur, raciste, islamophobe, anti-immigration, pro-russe et partisan d'une sortie de l'Union européenne. En 5 ans et après le scandale de l'Ibizagate, celui qui veut se faire appeler le chancelier du peuple a su remettre au premier plan sa formation politique. Mais si le FPÖ l'emporte, il y a peu de chances qu'il gouverne, car les conservateurs du SPÖ, le Parti populaire d'Autriche, refuseront d'être minoritaires dans une éventuelle coalition. Ils pourraient préférer se tourner vers le Parti social-démocrate ou les Verts, selon les résultats. Par contre, une victoire des conservateurs pourrait bien ouvrir les portes du pouvoir à l'extrême droite, car le Parti populaire serait alors majoritaire et pourrait imposer sa politique, même s'il faut préciser que les positions des deux partis semblent de plus en plus proches. Des hypothèses qui prouvent en tout cas à quel point l'issue de ces élections législatives est incertaine.
Précision de Romain Lemaresquier. L'actualité en Europe marquée aussi par l'Ukraine. De nouveau la cible de drones de l'armée russe. Plusieurs villes ont été touchées. Dans la région de Soumy, au nord-est du pays, au moins 9 personnes sont mortes, une vingtaine ont été blessées. 2 drones sont tombés à quelques minutes d'intervalle sur un hôpital. La Russie fait la guerre aux hôpitaux, aux infrastructures civiles et à la vie des gens. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, a réagi Volodymyr Zelensky.
RFI.
La joie et la fierté au Gabon, car c'est un Gabonais, Prosper Zo Minto, qui vient d'être élu directeur général de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le but de cette agence, qui regroupe 19 États, veiller à la sécurité et à la sûreté du ciel de ses pays membres. Pour le Gabon, Yves-Laurent Goma, ce retour aux affaires est une opportunité.
C'est plus qu'une victoire, une immense fierté pour le Gabon. C'est le triomphe de notre détermination et de notre engagement à porter haut les couleurs de notre pays, a jubilé le président de la transition sur son compte Facebook. Brice Clotaire Oligingema a personnellement porté à bout de bras la candidature de Prosper Zo Minto. Pour le ministre gabonais des Transports, Dieudonné Loïc Ndingamudouma, ce nouveau positionnement du Gabon fait partie de la stratégie globale du pays de reconquérir le ciel africain.
Il y a une politique nationale de l'aérien. Nous allons pas à pas et nous allons acquérir un appareil gros porteur. C'est-à-dire que nous allons nous déployer progressivement dans la sous-région et dans un avenir assez proche, aller vers l'Europe. Donc non, c'est pas le fruit du hasard, c'est bien concerté.
Dès leur arrivée au pouvoir, les militaires avaient annoncé la création d'une compagnie aérienne nationale plus de 20 ans après la faillite de l'ancien pavillon national Air Gabon. Le 31 août dernier, Fly Gabon a effectué son vol inaugural. La compagnie lance fin 2024 ses vols long courrier par Johannesburg en Afrique du Sud grâce à l'acquisition d'un Airbus A320-232. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
En France, reportage dans le cortège parisien à l'occasion de la journée mondiale pour l'IVG. L'interruption volontaire de grossesse est interdite dans une vingtaine de pays, très limitée dans certains et autorisée dans d'autres, comme en France. Mais dans l'Hexagone, tout n'est pas parfait. Valérie Cohen.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
Sur la bannière à l'avant du cortège est écrit « Avorter est un droit fondamental ». Un droit qui n'existe pas partout et quand il existe peut-être fragile, tient à rappeler Suzy Rothman du collectif national pour le droit des femmes.
On voit des régressions, que ce soit en Hongrie où Viktor Orban a imposé que les femmes avant d'avorter écoutent le cœur du fœtus. Que ce soit en Argentine, où le président Milei veut revenir sur l'acquis fondamental qu'ont eu les femmes en se battant pour le droit à l'avortement.
Souad, par sa présence, veut-elle aussi réaffirmer l'importance du droit à l'avortement.
L'IVG, droit fondamental des femmes, c'est la libre disposition de leur corps et c'est elles qui doivent encore et toujours savoir décider si elles ont envie d'un enfant ou pas.
En France, où l'avortement est autorisé depuis près de 50 ans et où la liberté d'y recourir a été inscrite récemment dans la Constitution, la bataille n'est pas finie pour autant, estime la docteure Emmanuelle Lhomme. Elle pratique des IVG dans un hôpital parisien.
Il y a des femmes qui changent de département pour avoir accès à l'avortement dans des bonnes conditions. Il ne suffit pas d'avoir des droits, il faut aussi des moyens. Et les moyens dans les services publics, c'est quelque chose qui manque actuellement.
Les associations demandent aux autorités, notamment, un accès effectif à l'IVG sur tout le territoire.
Valérie Cohen. Et puis refermons ce journal avec du sport, du cyclisme. C'est la dernière épreuve des championnats du monde à Zurich, en Suisse. La course en ligne homme avec 201 partants et quasiment tous les meilleurs coureurs du peloton. Trois grands favoris, Tadej Pogacar, le Slovène, Remco Evenepoel, le Belge, vainqueur du contre-la-montre le week-end dernier. Il rêve du même doublé qu'aux Jeux Olympiques. Et Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais, tenant du titre. Au milieu de tout ça, les Français vont tenter de tirer leur épingle du jeu grâce à Julien Alaphilippe, Romain Bardet ou Valentin Madouas, médaillés d'argent cet été au JO. Valentin Madouas aime ses courses d'un jour, longues, difficiles, même si le parcours s'annonce cette année particulièrement corsé, avec de nombreuses côtes à escalader sur un circuit très exigeant et un total effrayant de 274 km.
Ça fait peur après. On est là pour faire du vélo et la difficulté sera la même pour tous. C'est un parcours qui va être très usant, très difficile avec de nombreuses difficultés, même si on a forcément une principale. C'est un parcours qui répond à un coureur très complet, bon rouleur, un bon grimpeur et un bon technicien parce que le parcours est technique. C'est les courses que j'aime, surtout voilà, les courses de championnat, les courses en oreillette, les courses en circuit. On a une très belle équipe qui performe beaucoup sur les courses en circuit. Je suis vraiment voilà, très motivé avec cette longue course qui va être très usante, très dure. On va voir et on va faire une belle course.
Oui, on lui souhaite une belle course à Valentin Madouas. Départ de la course à 8h30 temps universel, 10h30 en France. RFI, il est 4h10. Ici, à Paris, je vous rappelle à la une de nos prochaines éditions, c'est la mort, bien sûr, du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, largement abordé lors de nos prochains journaux. Temps universel, presque 2h10 à Paris,